I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, un podcast signé 20 minutes. Aujourd'hui, on va parler de l'inceste, de la vie après les violences sexuelles. Selon un sondage pour l'association Face à l'inceste en 2020, on estime que 6,8 millions de Français ont été victimes d'inceste, soit 10% de la population du pays. Comment on vit avec le traumatisme ? Est-ce que, quand on a déjà réussi à parler de ce qui s'est passé, on peut en rire ? C'est le pari de Norma, dont le spectacle d'humour Normal à Paris évoque le sujet. Norma est l'invitée de cet épisode et on va parler ensemble d'hier et d'aujourd'hui, des troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, de parcours de résilience aussi, pour, comme elle le dit, transformer son karma de poule en aigle royal. Norma, qui es-tu ?
J'ai 30 ans, je suis humoriste et je joue un spectacle à la Comédie des Trois Bornes sur la résilience, sur comment on surpasse un traumatisme et comment on fait en sorte de reprendre force et d'en faire quelque chose un peu plus joyeuse qu'une énorme dépression et une phobie sociale.
C'est un spectacle d'humour sur une expérience personnelle sur l'inceste. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?
Alors moi, je connais pas mon papa. J'ai eu un papa adoptif. J'ai eu un papa de cœur qui m'a fait rencontrer toute sa superbe famille. Et dans cette superbe famille, il y avait son père, donc qui est devenu mon grand-père de cœur. Et j'ai été agressée sexuellement pendant 10 ans par cet homme. Donc de mes 3 à mes 13. Et puis un jour, j'ai eu la force de parler et de dire que ça suffisait. Cet homme faisant très très peur et l'emprise étant très forte, il m'a dit de me taire et je me suis retue pendant 20 ans. Mais voilà, j'ai été agressée sexuellement toute mon enfance par un homme qui a 75 ans.
Et est-ce qu'il y a eu des développements judiciaires ?
Oui, j'ai porté plainte en 2016, mon procès a eu lieu en 2018. C'est terrible parce que j'ai eu de la chance, parce qu'on en est là avec la justice par rapport à ce sujet, c'est qu'on a de la chance de ne pas avoir de non-lieu, on a de la chance d'être écouté. Donc oui, j'ai eu un procès et je fais partie de ceux pour qui la parole a été entendue et pas décrédibilisée.
Quelle était la raison qui a fait que tu as attendu 20 ans pour te tourner vers la justice ?
L'inceste, c'est un sacré cocktail, hein. On est sur pas mal d'ingrédients qui font que tu te taises. J'ai parlé à 13 ans, on m'a dit « si tu parles, tu meurs ». Donc bon... Je connais pas grand monde qui aurait continué de l'ouvrir, donc je me suis tue. Et donc, bah oui, là, mon cerveau s'est dit, t'as fabulé, c'est pas possible. Si tu perds toute ta famille pour ça, oublie. Et sois convaincu qu'il t'est rien arrivé. Donc ça a malheureusement bien marché. Et à 23 ans, j'ai re-eu des images, des souvenirs, des machins, et je me suis dit, je crois que c'est vrai, quoi. Je crois que c'est vrai et que c'est pas moi la menteuse, entre guillemets, quoi. Alors là, il y a une emprise qui est telle que quand on est enfant, n'importe qui prend très vite une stature très forte. Et mon grand-père a su se mettre dans une espèce de toute puissance où de toute façon, j'avais peur. J'avais peur déjà que cette famille m'aime plus. J'avais peur d'être la mauvaise petite fille qui jouait plus son rôle de bonne petite fille qui s'exécute. Enfin, j'avais peur et puis il faut le dire à ses parents, il faut le dire à ses amis... Et en même temps, au bout d'un moment, tu peux plus faire semblant. Moi, j'avais des milliers de TOC, je pouvais pas sortir dehors sans mon chien. Je calculais tout ce que je mangeais au bout d'un moment, tu fais des crises de boulimie. Enfin, donc, si tu veux, aussi fort que tu as envie de te faire croire que ça va, tu vois bien dans tous les actes du quotidien. Enfin, je veux dire, moi, j'ai passé l'aspirateur deux fois par jour pendant 10 ans et j'ai aligné mon tapis avec les rainures du parquet pendant 10 ans. Bon, il y a un moment, tu te dis, attends... Il y a un truc qui cloche, quoi. Je vais peut-être pas tout aligner toute ma vie. J'ai fait de la dysmorphie physique à me trouver obèse. Alors ça, je pense qu'il n'y a pas que mon grand-père. Hein. La société te dit bien aussi que dès que tu fais pas eu 36, t'es hideuse. Mais quand même, par rapport à mes copines, je voyais bien que j'avais un rapport au corps qui n'était pas dingue, quoi.
Le thème de ton spectacle ne prête pas du tout, mais alors du tout à rire. Tu dis pourtant, je vais faire un spectacle d'humour. Donc j'ai hésité beaucoup à en parler et pourtant la solution, c'est d'en parler et d'en rire.
Oui. Certainement parce que c'est ma politique. Hein. Moi, je rigole de tout parce que je trouve que c'est la meilleure façon de transformer les choses. En fait, j'ai pas du tout voulu à la base faire un spectacle sur l'inceste. J'ai fait un spectacle sur ma vie. Au fil de l'écriture, je me suis rendu compte que ma vie, c'était d'aligner le tapis avec les rainures, c'était de me trouver obèse, c'était de compter la moindre calorie et puis après de manger 70 barres chocolatées parce que ça fait 3 semaines que tu bouffes pas, donc ton corps et ton cerveau, il te dit alors par contre, moi je vais reprendre des forces et puis je vais les reprendre dans du gras et dans du sucre. Je me suis retrouvée à écrire là-dessus et il y a un moment où je me suis dit merde, j'ai malheureusement bien l'air folle, il faut que j'explique pourquoi. Entre guillemets. Sauf qu'il y avait plein de blagues. Et après, je me suis dit, mais je peux pas, si je veux être honnête, il faut que j'explique pourquoi j'en suis là. En fait, ça s'est retrouvé à être un spectacle marrant parce qu'à la base, j'ai pas écrit là-dessus. Et à un moment, je me suis dit, il faut que j'ai de l'honnêteté envers mon public, il faut que j'ai de l'honnêteté envers moi-même. Et je peux pas ne pas en parler, quitte à l'avoir vécu, autant en faire quelque chose, quoi.
Cette expérience aujourd'hui, ce que tu vis, c'est une vie avec.
Ouais. Il y a toujours l'espérance et l'illusion qu'un jour, ça n'induira plus rien chez moi. J'y crois très fort, mais bon, je crois aussi au prince charmant, donc je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on croit. En tout cas, oui, je pense que ce n'est pas effaçable à 100%. Par contre, je pense que c'est transformable, je pense que c'est atténuable. Et puis la quête dans le fait de retrouver sa personne et son être et son âme, elle est chouette. En fait, quand tu commences à reprendre des forces et à te dire ça ne m'anéantira plus complètement, il y a un truc qui est très cool. Enfin, la première fois où tu n'alignes plus ton tapis avec les rainures, t'es très heureux. Et c'est que des petits bonheurs. Alors malheureusement, j'aurais préféré ne pas vivre ça et pouvoir vivre ma vie dès le départ comme tout le monde, même si je pense que tout le monde a eu des grandes difficultés. Mais on vit avec. Le tapis est plus aligné, mais j'y pense toujours et je pense que j'y penserai toute ma vie. Enfin, c'est... Voilà.
Ton parcours de résilience aujourd'hui, quel est-il par rapport aux hommes ? Tu disais dans la présentation du spectacle, j'ai un rapport bizarre au mec.
Ouais, disons que la première personne qui a eu de la toute-puissance pour moi et que j'ai aimé, parce que j'ai foncièrement aimé mon grand-père et j'ai foncièrement cru qu'il m'aimait, ça a été quelqu'un de très manipulateur. Donc, n'ayant pas en plus de figure paternelle, on fait un Oedipe avec la manipulation, entre guillemets. Enfin, je fais un peu de la psychologie de bas étage. Je suis toujours allée chercher des hommes pour qui il aurait fallu être capable de tout et pour qui il était bien de s'oublier. C'est fini, mais c'est fini depuis un an. Et il a fallu que j'aille me recasser les dents sur des hommes qui avaient leur névrose aussi et qu'on fait certainement comme ils ont pu avec leur rapport à la femme. Mais ouais, je suis allée vers des hommes... dans la toute-puissance et qui espère que tu t'oublies par amour. Et voilà, et moi j'y travaille énormément, mais si j'aime pas les gnocchis et qu'un homme aime les gnocchis, je peux très vite aimer les gnocchis. Donc je pense, enfin voilà, j'apprends de plus en plus, mais j'apprends à ne plus me forcer à aimer ce qu'aime l'autre et ce qu'il me demande d'aimer.
À 30 ans. Un chemin parcouru pour transformer ton karma de poule en aigle royal.
Ouais, c'est ça, je déploie mes ailes et disons qu'elles ont été un peu grippées dans mon enfance, donc c'est plus douloureux et peut-être un peu plus compliqué. Mais par contre, elles ont tellement envie de sortir qu'elles sortent grand après, donc ça va.
La résilience, ça veut dire quoi pour toi ?
C'est réussir à faire ce qui nous faisait tant peur. C'est réussir à se dépasser sur l'impossible qu'on a construit dans notre tête, hein, parce que entre guillemets, rien n'est impossible. Mais quand on vous a anéanti et que vous avez été persuadé d'être la plus moche et la plus bête et la plus nulle et la moins gentille parce qu'on vous a manipulé, c'est très compliqué de faire quoi que ce soit. Moi, je n'ai jamais pu faire une division parce que c'est arrivé à un moment dans ma vie où on m'avait anéanti. C'était impossible de savoir 44 divisé par 6... J'essayais de respirer déjà, quoi, entre guillemets, mais j'essayais déjà de comprendre pourquoi j'avais besoin de me laver les mains 25 fois, alors que les autres jouaient dans la cour, donc il n'y avait pas de place pour la division. La résilience, pour moi, elle est de, de réussir à mettre une jupe, de réussir à me faire belle, de réussir à me dire « vas-y, celui-là, il me plaît et je vais séduire et j'ai pas peur et il va rien m'arriver », si ce n'est du bonheur et de la séduction et de la rigolade et un mec cool, quoi. Et elle est aussi de rentrer dans le métro sans me dire qu'il y a 74 agresseurs sur 78, enfin voilà. La résilience, elle est de se dépasser sur tout ce qui nous fait peur et tout ce qui nous empêche de vivre, je pense.
S'il y a une parole que tu peux adresser à des petites filles, petits garçons, qui vivent aujourd'hui des actes bizarres, des actes qui ne leur plaisent pas, des mains sur leur corps, qui ne savent pas forcément que c'est l'inceste, qui ne mettent pas forcément un nom sur ce qu'ils vivent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ?
Je leur dirais que c'est des enfants qui sont mignons comme tous les enfants, qui sont gentils comme tous les enfants et qui n'ont pas besoin de faire quelque chose pour être gentils, qui n'ont pas besoin de faire ce qu'on leur demande quand ils sentent que c'est bizarre. Et surtout qu'ils ont le droit de parler. Et un adulte normal, un adulte qui t'aime et qui te veut du bien, ne te dira jamais de ne pas parler. Donc à partir du moment où tu rencontres un adulte qui te dit qu'il faut que tu te taises, qu'il faut que tu sois gentil, qu'il faut que tu sois mignon et que surtout il ne faut pas que tu fasses d'histoire, c'est très souvent un adulte qui est mauvais et que c'est lui qui est mauvais, c'est pas toi. Et c'est pas toi en allant parler, c'est pas toi en arrivant à l'école et en pleurant pour raconter ce qui t'arrive, c'est pas toi qui est mauvais, c'est celui qui t'a fait croire que si tu parlais, t'étais pas un bon petit garçon ou une bonne petite fille. Donc je lui dirais d'aller parler. Je lui dirais d'aller parler et je lui dirais que s'il n'est pas écouté une première fois, c'est que malheureusement, parfois, on rencontre deux mauvais adultes dans sa vie et qu'il fallait en chercher un troisième et un quatrième et qu'il va finir par y en avoir un de très bon qui va t'entendre, qui va t'écouter et qui va être d'accord avec ce que tu dis et qui va te dire que tu as raison.
On espère que ces paroles seront écoutées par tout le monde.
Ouais.
Et puis, peut-être si ça peut aider ouais. Une petite fille, un petit garçon.
Ouais, et puis c'est pareil en tant qu'adulte. En tant qu'adulte, on a du mal à croire. On a du mal à croire que son mari puisse être un agresseur, que son père puisse être un agresseur, que son grand-père... Enfin, c'est vraiment notre devoir d'enlever la superbe qu'on a mis aux gens de notre famille ou de notre entourage quand il faut l'enlever. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un doute sur tous les membres de sa famille. Mais par contre, quand on a un doute, il ne faut pas remettre son doute en cause... Et moi, ma mère a jamais aimé mon grand-père, sans savoir pourquoi. Mais ma mère est une femme qui a fait un enfant seule, parce qu'elle s'est fait abandonner par mon père. Mais elle a fait un enfant seule et j'avais des bizarreries à l'école, mais on ne lui a pas renvoyé que ça pouvait être quelqu'un de la famille. On lui a renvoyé que c'était elle, que c'était parce qu'elle était une femme et qu'elle avait fait un enfant seule et que c'est ça qui me détruisait. Donc ma mère n'a pas pu se rendre compte, pas parce que c'est une mauvaise mère, elle n'a pas pu se rendre compte parce que la faute était sur elle, parce qu'on ne fait pas un enfant sans père. Mais elle n'a pas fait un enfant sans père. Il y a quelqu'un qui est parti à un moment donné et qui l'a abandonné seul avec son enfant. Enfin, la société tout entière met la faute sur l'enfant qui est embêtant à l'école, sur la mère qui s'est permise de faire un enfant toute seule. Enfin, voilà. Donc nous, en tant qu'adultes, si on a un doute, il faut aller au bout de ce doute. Au pire, on s'est trompé. Mais je crois qu'on ne se trompe jamais trop là-dessus et qu'on ne va pas avoir des doutes sur quelqu'un de sa famille s'il n'y a pas de doute à avoir.
Merci à Norma pour cet échange. Avant de conclure, je vous donne deux numéros verts pour les victimes d'inceste. En métropole, c'est le 0805 802 804. La ligne est ouverte entre 10 et 19 heures. Et un autre numéro, le 800 100 811, est adapté aux horaires de l'outre-mer. Minute Papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel, c'est un podcast généraliste de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr. Pour nous envoyer des idées, des critiques, des commentaires, une seule adresse mail, audio@20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.